Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes en partenariat avec Amadeus Piano. Une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Merci d'être au rendez-vous de Mélomanie. Bienvenue aux fidèles de cette émission et à tous ceux qui découvrent le magazine de l'actualité musicale toulousaine et régionale. Le joli mois de mai arrive déjà à son terme alors que le beau temps peine toujours à s'installer sous nos latitudes. Mais la météo musicale reste, elle, au beau fixe. Le soleil, les soleils y brillent encore cette semaine et dans les jours à venir. Pour vous l'annoncer, la présenter, la commenter, un trio de mélomaniaques a pris place à mes côtés dans ce studio. Je suis très heureux de retrouver Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi, Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour Culture 31 et le journal La Voix du Midi, également présent et de retour dans cette émission, Hubert Stocklin, contributeur du site classicnews.com et chroniqueur pour Culture 31. Nous avons aussi le plaisir de recevoir un invité d'honneur, le flûtiste Michel Brun, fondateur et directeur artistique de l'ensemble Baroque de Toulouse et fondateur et directeur artistique du festival Passe ton bac d'abord qui va fêter les 10 ans de sa création du 1er au 3 juin à l'occasion de sa 11e édition. Nous allons évoquer largement son programme en seconde partie de ce numéro avec Michel Brun. Bienvenue aussi à tous les quatre. Dans l'immédiat, place à l'actualité musicale de la semaine passée, comme il est de coutume, lors de la première partie de cette émission.
Mélomanie. Retour arrière.
Il y a eu encore un concert de l'Orchestre National du Capitole à la Halle au Grain la semaine dernière, vendredi 18 mai pour être précis. Pas de soliste invité cette fois-ci, mais en revanche un chef invité, comme c'est souvent le cas ces temps-ci. Un habitué, il est vrai, puisqu'il s'agit du Catalan Josep Pons, que l'on voit depuis des années à la tête de l'ensemble symphonique toulousain, une ou deux fois par saison, et plutôt deux fois qu'une d'ailleurs, pour de bonnes raisons, parce que Josep Pons est autant apprécié des musiciens que du public de la Halle au Grain. Un très bon directeur d'orchestre donc, pour diriger un joli programme romantique allemand. Trois œuvres y ont été données, deux de Robert Schumann, l'ouverture des scènes de Faust et la symphonie numéro 2. Ces deux pièces encadraient la symphonie numéro 8 de Schubert, celle qu'on appelle aussi l'inachevée. Et dans la salle, il y avait Anne-Marie Chouchan et Serge Chauzy. Vous avez donc assisté à ce concert. Je ne crois pas m'avancer beaucoup en disant que vous y avez pris beaucoup de plaisir.
Oui, effectivement, beaucoup de plaisir, parce qu'il s'agit là d'un chef, Josep Pons, d'abord, comme vous avez dit, qui est vraiment très aimé des musiciens. Et puis qui a un sens. Alors peut-être est-ce dû au fait qu'il dirige beaucoup de spectacles lyriques, puisqu'il est le directeur musical du Liceo de Barcelone. Certainement ça doit jouer, mais il a un sens de la direction d'orchestre très dynamique, très nuancé, très attentif à chaque élément de l'orchestre. Alors c'est un peu le cas avec chaque chef invité. La sonorité générale de l'orchestre dépend beaucoup du chef. On se rend compte que lorsque l'orchestre est dirigé par Tugan Sokiev, il sonne d'une certaine manière. Lorsqu'il est dirigé par d'autres chefs, c'est un autre orchestre. Donc chaque chef a sa sonorité. C'est assez amusant. On pourrait penser qu'elle est caractéristique de l'orchestre, mais pas seulement. Et en l'occurrence là, dans ce concert, qui était donc centré autour de Schumann, Schubert, les deux grands compositeurs du romantisme naissant, Josep Pons abordait un répertoire qui lui est tout aussi familier que tous les autres. C'est quelqu'un qui dirige autant de la musique de la Renaissance que des créations contemporaines, il dirige absolument tous les répertoires. Et là, vraiment, ça a été un grand moment. Parce que dans la symphonie inachevée, commençons par ça, donc, symphonie inachevée hyper connue de tout le monde, hein, cette symphonie dont Schubert a laissé un scherzo inachevé, il a composé 120 mesures, mais pour piano. Il n'en avait orchestré que 20, alors il y a eu des tentatives de compléter cette symphonie qui ont finalement tout échoué, et donc c'est très bien comme ça, il y a deux mouvements formidables. Et là, vraiment, non seulement l'orchestre a rayonné d'une certaine lumière dans cette symphonie, et le chef leur a insufflé une palette de nuances incroyables. D'abord une grande dynamique, des pianissimi absolument presque inaudibles jusqu'au grand fortissimi, et puis ce que je pourrais appeler des micro-nuances, des petits détails qui apparaissent de temps en temps, comme tout d'un coup un piano subito, tout d'un coup l'orchestre s'éteint presque, et puis repart. Donc vraiment un grand moment avec des solos. Bah, on sait à quel point les vents de l'orchestre, et les bois en particulier, sont de qualité, avec des solos de hautbois, de flûte, de clarinette, de basson, de cor, Donc très très bien. Donc ça a été vraiment un grand moment, hein, une symphonie magnifiquement dirigée avec beaucoup de souplesse en particulier. Et puis il y a eu, alors moins souvent donné, d'une part l'ouverture des scènes de fosse, en fait qui s'appelle scène du fosse de Goethe de Schumann. Donc c'est vraiment sur le fosse de Goethe qu'il a calqué, il s'agit d'un oratorio, vers la fin de sa vie d'ailleurs, hein. C'est une œuvre assez tardive de Schumann, et l'ouverture résume un peu le mythe de Faust qu'il a revisité par rapport à Goethe. Et donc là aussi, avec beaucoup de dynamique, d'énergie, il en a donné une vision assez épique de cette ouverture. Et puis la deuxième symphonie, qui n'est pas non plus très souvent jouée, hein, on entend plus souvent la symphonie Rhénane, la 3, la 1 même, la symphonie du printemps, ou la 4, elles sont plus souvent données. Et là, c'est une œuvre un peu hybride. Schumann lui-même disait à propos de cette œuvre qu'il a composé à la suite d'une dépression d'ailleurs. Il commençait à avoir des petits problèmes psychiques et donc il a écrit ceci. « J'ai composé cette symphonie étant encore à moitié malade. Il me semble qu'on doit s'en rendre compte à l'audition. » C'est quand même incroyable d'oser écrire ça sur son œuvre. « C'est seulement dans la dernière partie que je me sentis renaître. » Et lorsqu'on écoute la symphonie, et lorsqu'on l'écoute dans la vision qu'en a donnée Joseph Pons, on a cette espèce d'évolution. Le premier mouvement est chaotique, plein de ruptures. Et puis ça s'achève sur un final éblouissant. On a l'impression que c'est le retour à la vie. Donc c'est vraiment une œuvre étrange et intéressante. Et qui a été jouée vraiment avec, dirigée avec beaucoup d'éclat, jouée par l'orchestre avec beaucoup d'éclat. Donc vraiment un beau concert. Qui nous laisse supposer qu'on verra encore Joseph Pons assez souvent.
Oui, il n'y a pas de raison que ça s'arrête.
Il est tellement aimé de l'orchestre et réciproquement qu'on le retrouvera.
Anne-Marie.
Oui, je peux d'ores et déjà répondre à cette interrogation. En l'interrogeant, il m'a dit qu'il serait là la saison prochaine. Donc voilà, il vient en voisin depuis Barcelone et de beaucoup d'autres endroits, puisqu'il a, il fait aussi une carrière internationale de chef symphonique. Et c'est vrai que cette soirée était vraiment exceptionnelle pour ces deux œuvres au programme Schubert et Schumann. Schubert, c'est vrai qu'on entend souvent la symphonie dite inachevée, mais souvent, bof, on se dit, tiens, on la connaît, l'inachevée. Là, c'était tout à fait autre chose. Et c'est la deuxième de Schumann, qui, au contraire, un univers très différent, même très surprenant, a été jouée avec quand même une certaine rigueur, puisque l'œuvre n'est pas apparemment architecturée comme une symphonie classique, mais en même temps aussi, une façon de la faire sonner, une façon de montrer de très belles nuances, et puis aussi beaucoup d'expressions. Je trouve que c'était vraiment un grand moment aussi, puisque moi j'ai entendu le concert la veille du concert symphonique pour les abonnés. C'était un concert pour l'association AIDA, des mécènes de l'Orchestre du Capitole, et ce concert a reçu aussi un accueil enthousiaste, cette fois-ci sans soliste, uniquement pour ces deux symphonies.
C'est ça.
Alors, je vois que vous êtes complètement sur la même longueur d'onde concernant ce concert. Et c'est vrai, on l'entend souvent, la symphonie inachevée de Schubert, mais bon, elle est superbe, donc je propose qu'on la réécoute encore. Alors, ça va être une version, non pas dirigée par Joseph Pons, mais dirigée par Leonard Bernstein, avec le Concertgebouw d'Amsterdam, le début du premier mouvement, tout le monde connaît, mais c'est une merveille. le début de la symphonie inachevée de Schubert, interprétée ici par le Concertgebouw d'Amsterdam sous la direction de Leonard Bernstein, une des trois œuvres jouées par l'Orchestre National du Capitole lors de son dernier concert à la Halle aux Grains. Et l'Orchestre National du Capitole est aussi sur un autre front, celui de l'opéra avec Macbeth au Théâtre du Capitole. La première représentation de l'œuvre de Verdi a eu lieu vendredi dernier, il y en a eu d'autres depuis et il en reste encore deux dimanche et mardi. Anne-Marie et Hubert, vous avez pu voir cette production. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
Alors, j'ouvre le feu. Moi, c'est un opéra de Verdi que j'adore, peut-être plus que de raison, parce que justement, il y a une pathologie de couple psychiatrique de haut niveau que j'ai beaucoup étudiée, mais je ne vais pas vous faire cet affront de détailler.
On va préciser
tout ce
que c'est en lien avec votre profession.
Voilà, quoi, voilà. J'ai des compétences pour dire ça. Voilà. Et donc, j'avais beaucoup d'attentes vis-à-vis de ce Macbeth et beaucoup de peur par rapport à tout ce que je sais qu'on peut y trouver et qu'on n'y trouve pas toujours. Alors d'emblée, je dirais que c'est une réussite. Au niveau mise en scène et visuel, les images sont fortes, belles, avec des costumes d'une Lady Macbeth par exemple qui ressemble à un petit côté bande dessinée d'horreur avec un côté Morticia Adams pour Beatrice Uria Monzon, donc avec une robe fourreau extraordinaire, le poignard caché dans le décolleté, enfin un truc magnifique. Mais c'est aussi l'opéra de Verdi le plus subtil où il s'est engagé pour écrire à sa façon, tout en gardant la tradition des cabalettes, des chœurs, des ballets. Il a repris pour Paris, je ne vais pas non plus refaire cette histoire. J'ai beaucoup aimé les voix qui étaient puissantes. Beatrice Uria Monzon est au sommet de sa vocalité actuellement en termes de puissance. C'est extraordinaire. Par contre, elle a un petit peu une Lady Macbeth, justement, de la terreur. Et tout le côté effondrement est beaucoup moins bien géré, la voix ne le permettant pas. Alors c'est aussi indistribuable, ce rôle. Il faut une voix très sombre. Verdi demandait à ce qu'elle soit même laide par moment. Donc ce côté-là, elle est parfaite. La voix est très corsée, très sombre. Mais il faut terminer avec un contre-ré bémol. Donc ça fait un contrut avec un petit plus. Pianissimo sur un fil de voix. Bon, impossible. Oui. Bon, on ne va pas lui en vouloir. Elle ne l'a pas fait. Mais bon. Il y a également le duo après le meurtre du roi Duncan qui doit être tout à fait chuchoté par les deux protagonistes. Ça n'a pas été le cas. Donc, on va dire que toute la subtilité n'était peut-être pas là, mais la puissance était là. J'ai plus de réserves vis-à-vis du Macbeth de Vitaly Bilic, qui est très apprécié du Capitole. On l'a entendu dans beaucoup de rôles de Verdi. Ben, il fait un rôle de Verdi. Voilà. Donc, un rôle de Verdi plutôt bien chanté, quoique, peut-être, vous aurez des réserves. Le timbre est magnifique, la posture de l'homme est grandiose, il se tient bien droit, bien dans ses bottes. Et ce Macbeth, c'est pas comme ça que je le vois. Moi, je vois un homme qui s'effondre, et donc, il a le même costume, la même prestance du début à la fin. Voilà, c'est un choix. Lady Macbeth aussi garde la posture, mais il y a un petit jeu de cheveux qui deviennent tout blancs au dernier acte, qui est assez extraordinaire avec la robe qui est habillée de voilage, qui au début sont scintillants. Enfin, quand elle est au début, elle est scintillante, et à la fin, c'est du noir. Donc, effectivement, il y a un petit jeu là-dessus qui est intéressant. Mais l'émotion ne vient pas vraiment en termes d'émotion pathologique, on va dire, de cette folie qui conduit au meurtre pour le pouvoir, vient pas du protagoniste. C'est bien chanté, c'est puissant, mais il y a des choses qui manquent. Par contre, le chœur est absolument admirable. Et l'émotion vient dans ce chœur des réfugiés du dernier acte, porter vraiment quelque chose de très puissant et de très délicat, avec un Macduff, Otar, alors j'ai du mal à dire le nom, hein, Otar Georgikia, qui est une magnifique voix de ténor, ronde, chaleureuse. C'est ce que j'ai beaucoup aimé chez lui, c'est la, je vais pas dire l'enlaidir, mais la rendre mélancolique. Il a enlevé du brillant, quand il pleure ses enfants et sa femme, il y a quelque chose de très beau. Je crois que ça, c'est une qualité assez rare chez un ténor, de pouvoir renoncer à la beauté solaire de son timbre, oui. Disons-le comme ça. Et on connaît des contre-emplois comme certains ténors brillantissimes qui ont chanté cet air comme si c'était un air solaire, alors que c'est un air de nuit, de meurtre, de désespoir total. L'orchestre aussi, Michel Gamba, que je ne connaissais pas comme chef d'orchestre, il a fait le job, il nous a fait des sons puissants, et les tempi étaient souvent très très rapides. Et pourtant, je ne veux pas dire que l'orchestre n'est pas capable de jouer à cette vitesse, mais la lisibilité des thèmes, parce que l'ouverture de Macbeth est quand même magnifique, on a tous les thèmes qui se déploient, la lisibilité des thèmes, leur superposition, moi, ça m'a paru un petit peu brouillon. Donc c'est lui peut-être qui est responsable de cette absence de nuance dans le fameux duo dont je parlais, hein, parce que c'est très très puissant. Et des détails, peut-être des pinaillages, mais vous avez le début de l'acte où il y a le brindisi que Lady Macbeth chante avec ses vocalises. Là aussi, ce n'est pas la partie la plus facile pour Béatrice Ouryamonzone. Donc, il commence à toute blinde avec le chœur qui a du mal à articuler. Enfin, ça va trop vite. Tout va trop vite, l'orchestre, tout. Et il ralentit considérablement pour qu'elle puisse faire son bridge. Alors ça a l'avantage de montrer le côté shakespearien de cette partition où il y a du mauvais goût, disons-le franchement, du mauvais goût assumé comme Shakespeare l'assume. C'est pour ça aussi que je trouve que c'est la plus belle représentation shakespearienne d'un opéra. C'est ce côté mauvais goût. Mais là, il est allé un peu loin, quoi. Il a vraiment fait deux tempi complètement opposés. Du coup, la scène des apparitions, qui doit être un moment extrêmement fort, je sais pas, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans mon attente d'une continuité. C'était des morceaux qui s'enchaînaient. Et je crois pas que Verdi voulait ça. En tout cas, c'est un très très beau spectacle au niveau d'une puissance. Toutes ces réserves, c'est un peu parce que je pinaille, que j'adore cet opéra et que... On a une très très belle distribution. Le roi Banco, c'est également une belle voix de basse. C'est très agréable. In Sung Sin, donc j'ai toujours du mal à dire les noms.
Sud-coréen.
C'est un sud-coréen, mais qui fait vraiment très très bien. La puissance est là, le côté jeu avec le pouvoir absolu, mais peut-être pas la faille chez les personnages en termes de douleur morale qui en découle.
On a bien compris que c'est ce qui vous a manqué un petit peu dans cette production. Anne-Marie.
Je suis assez d'accord avec beaucoup de choses dites par Hubert. Je crois que ce manque peut-être de véritable, pas folie, mais de quelque chose de plus fort dans ce qui se passe sur scène, moi tient un peu à la mise en scène. C'est une reprise d'une mise en scène de Jean-Louis Martinotti, qui est décédé en 2016. Et donc, elle a été reprise par quelqu'un qui s'appelle Frédéric Lombard. Et les chanteurs sont vraiment plantés là. Il n'y a pas de direction d'acteur qui ferait qu'on pourrait aller un petit peu plus au fond des choses. Et c'est vrai que c'est une question peut-être parfois d'engagement vocal, mais je crois qu'en l'occurrence, ça peut être aussi une question de direction d'acteur, parce que c'est un ouvrage très fort quand même sur le plan théâtral. C'est pas simplement une suite d'airs, c'est un ouvrage très fort. Et je pense que le chef d'orchestre, même s'il va un peu vite et parfois etc., je pense qu'il essaye de maintenir au moins une tension dramatique qui fait défaut à la scène, parce que le décor est très réussi, comme vient de le dire Hubert. C'est une production très très intéressante.
Les ballets, non, les ballets, sont bien, les sorcières sont très vivantes.
Oui, c'est très, voilà.
D'ailleurs, c'est l'univers, c'est le chanteur du cœur et il joue très très bien.
L'univers.
Il y a quand même un travail, je crois.
Il y a un travail, mais voilà.
Excusez-moi d'insister, c'est peut-être... Bon, Béatrice Ouryamonzone, c'est une actrice extraordinaire, donc elle tire son épingle du jeu. Mais c'est Vitaly Bily, mais il est comme ça dans toutes les mises en scène. Ça fait quand même 4 mises en scène où je me dis, il fait, je vais être désagréable, il n'y a pas de caractérisation du rôle. C'est le baryton. Le baryton qui peut tout chanter.
Oui, sauf que
c'est pas mal, hein,
je serai encore plus sévère. Et après avoir entendu ce baryton, Vitaly Bily, à plusieurs reprises, moi je ne suis pas très convaincu qu'il s'agisse là d'un très grand chanteur capable d'avoir la ligne qui convient surtout à ce Verdi, une fermeté de la voix, etc. Et même un engagement personnel, un engagement personnel qui fasse que ce personnage existe dans tous ses excès et même vocalement. Ses airs, malheureusement, la tenue du souffle n'est pas très solide. Et je pense que c'est quand même là une des faiblesses du spectacle. Personnellement, hein, je l'ai ressenti comme ça, puisque ce spectacle, je l'ai vu aussi à la Générale, et j'avoue que je ne suis pas convaincue, parce qu'il n'incarne pas vraiment ce personnage.
Le public aime ce genre de chanteur, parce qu'il y a du son. Je veux dire, il y a du son qui est rond, quand même. C'est une voix qui sonne bien, mais bon, c'est peut-être pas tout. Il faut peut-être mettre en garde aussi une partie de ce qui se passe au Capitole en ce moment. On a beaucoup de grandes voix, grandes voix. Et est-ce que de trouver des grandes voix aussi, des fins musiciens? Bon,
sans être rare, musicien, je pense quand même qu'un chanteur, quelqu'un qui chante Verdi, se doit d'avoir une tenue, surtout sur un Verdi de cette époque, qui est un Verdi comme encore influencé par le bel canto. Donc il y a quand même des airs. Qu'ils soient engagés dramatiquement, c'est une chose, je pense que ce n'est pas leur faute, c'est plutôt celle de la direction d'acteur. Mais en dehors de ça, il y a quand même une nécessité de tenir ses airs avec une certaine solidité, disons. C'est une des difficultés de chanter Verdi, parce que ce n'est pas évident, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on a parlé par le passé de baryton Verdi, c'était presque une catégorie à part. Peut-être que ce n'est pas forcément vrai, mais enfin, n'empêche que ça nécessite certaines qualités, surtout ce Verdi.
Mais c'est la 4e fois qu'on l'entend dans du Verdi, donc bon... Il faut peut-être...
Peut-être changer d'invité, ouais. Baryton.
Mais en tout cas, écoutez, je ne voulais pas conclure qu'on reste sur une idée que ce n'était pas un spectacle agréable.
Il y a
vraiment quelque chose qui se passe quand même dans un respect.
Le cœur est magnifique, surtout. Le cœur est magnifique.
Un respect de la théâtralité de Shakespeare, en tout cas dans ce qu'on voit. Après, l'approfondissement n'est pas là. Mais on ne peut peut-être pas tout faire non plus. C'est un ouvrage très, très difficile. On ne le voit pas souvent. C'est la deuxième fois que je le vois sur scène. Évidemment, je connais toutes les versions au disque. Mais même au disque, il n'y a pas une version. Il faut chercher un peu partout quelque chose. C'est les opéras un peu maudits de ce point de vue-là, parce que les caractérisations vocales éclatent avec cet opéra. C'est effectivement le premier rôle du baryton qui doit avoir des aigus et qui doit avoir des grandes lignes chez Verdi, mais le rôle de Lady Macbeth est inchantable, c'est terrible.
Nous aurons l'occasion de reparler de Macbeth la semaine prochaine, notamment avec Robert Penaver qui sera de retour dans cette émission. Fin de la première partie de ce numéro, petite pause d'une minute et nous nous retrouvons avec Michel Brun pour évoquer Passe ton bac d'abord et sa programmation. Restez bien à notre écoute, à tout de suite.
Vous recherchez un clavier numérique ou un piano acoustique ? Amadeus Piano propose les plus grandes marques au meilleur prix. Amadeus Piano est aussi la clé de vos concerts et de vos événements. Du piano droit haut de gamme au piano à queue de concert, nous mettons tout en œuvre pour vous fournir une prestation de haute qualité. Avec Amadeus Piano, la référence du service et du transport de piano à Toulouse et dans la région, bénéficiez du savoir-faire de Robert Burali, facteur de piano diplômé et accordeur du Conservatoire et de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Retrouvez tous nos produits et services sur amadeuspiano.fr. Amadeus Piano vous souhaite de passer un agréable moment avec Mélomanie.
Seconde partie de Mélomanie avec les invités de ce numéro, Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi, Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour Culture 31 et le journal La Voix du Midi, Hubert Stocklin, contributeur du site classiquenews.com et chroniqueur pour Culture 31, et avec notre invité d'honneur Michel Brun, fondateur et directeur artistique de l'ensemble baroque de Toulouse et du festival Passe ton bac d'abord.
Mélomanie, l'agenda.
C'est donc avec Michel Brun que nous poursuivons cette émission, alors que la 11e édition de Passe ton bac d'abord a lieu dans une semaine du 1er au 3 juin. 11e édition, ça veut dire que l'on célèbre cette année les 10 ans du festival que vous avez fondé avec l'équipe de l'ensemble baroque de Toulouse. C'était donc en 2008. Et avant de parler avec vous de la programmation de cette édition spéciale 10e anniversaire, j'avais une petite curiosité personnelle, si vous permettez. Est-ce que le festival avait déjà sa forme actuelle au départ? Et puis surtout, comment vous envisagez la suite à l'époque? Est-ce que vous pensiez que le public allait être au rendez-vous? Et est-ce que vous pensiez que vous seriez encore là 10 ans après? Ou vous disiez, bon là on va faire une édition et puis on verra bien?
Alors non, je pense que c'est plutôt la deuxième réponse que vous faisiez dans votre question. Évidemment que quand on démarre un projet comme celui-là, on ne sait absolument pas quelle va être sa destinée. D'autant plus que il est parti, j'ai envie de dire presque sur un coup de tête, qu'on pourrait appeler un coup de cœur. Mais je crois que c'est important, quand on s'occupe d'une telle aventure, de rendre à César ce qui appartient à César. L'idée de ce festival, je crois que je l'avais au fond de moi depuis très longtemps, mais l'étincelle qui a permis qu'elle soit réalisée, je la dois à un ami, à un musicien proche, qui d'ailleurs joue régulièrement avec l'ensemble baroque de Toulouse, et pas que, avec d'autres ensembles brillants de la région Occitanie, par exemple les Sacboutiers. Cet ami est également un des plus brillants musicologues français actuels, il s'appelle Philippe Canguilhem, et c'est à la suite d'une soirée, on va la qualifier d'un petit peu trop arrosée, au cours de laquelle nous avions refait le monde comme s'il allait droit, c'est-à-dire un monde dans lequel la musique serait au premier plan, et dans la musique, un certain Jean-Sébastien Bach, voilà. On peut toujours rêver. Et à la fin de cette soirée, Philippe me dit, mais c'est drôle que tu me parles de cette idée, que tu voudrais faire du Bach d'une manière complètement folle, effervescente à Toulouse, parce qu'il y a quelques années, nous avons monté un projet à Rodez, autour de Bach, une nuit Bach à Rodez. Alors Bach était partout dans la ville, dans les cafés, sur les places publiques, dans les salles de concert, incroyable, dans les lieux du patrimoine, fait par tout le monde, c'est-à-dire des musiciens professionnels qu'on avait invités, mais également des élèves du concert. Et à un moment donné, je l'arrête, je lui dis « Mais ça y est Philippe, merci ». Et ça devait être en mars 2008. Voilà, c'est-à-dire qu'au mois de mars 2008, rien n'était fait, l'idée venait d'être émise. Et ce qui aurait été la raison aurait été de renoncer. Bien.
Oui, il va attendre au moins encore un an.
Là, non, c'est bien comme ça.
Ou alors, foncer tête baissée.
Une deuxième raison aurait pu être, effectivement, comme vous l'avez dit, de reculer à l'année suivante. Mais je crois que c'est ça la magie des choses. C'est-à-dire que je pense que si à ce moment-là, on avait été raisonnable, il est probable qu'on ne l'aurait pas fait du tout. Pas comme ça. Parce qu'il y a un aspect folie dans ce festival qui est en grande partie, je pense, dû à sa conception, à sa naissance, à sa genèse, sur un espèce de coup de folie. On va faire ça. Alors, on a démarré cette première édition, donc en 2008. Je crois qu'en tout, nous avions 2 ou 3 000 euros de subvention. Voilà. Dès la première année, vous avez parlé de la forme du festival. C'était la même forme, il était juste un tout petit peu moins ample. Allez, soyons modestes, cette année, il y a une centaine d'événements, il y en avait environ 80 hein, pour la première année.
Quand même.
Et c'est donc un coup de folie, certainement. Alors, je le dois aussi également, c'est pareil, je tiens à lui rendre hommage. Nous avions à l'époque une administratrice. À chaque fois que je lançais une idée et que cette idée semblait irréalisable, elle la reprenait au bon et elle essayait de la réaliser. Quelques mois avant, ça avait été Cantate sans filet. Lorsque nous avons commencé Cantate sans filet, je connais dans mon entourage de musiciens plusieurs proches qui m'ont dit « Michel, ton projet de faire venir des musiciens professionnels bénévolement un dimanche par mois pour jouer une cantate de Bach, tu vas en faire 2, 3, et puis ça va s'épuiser. » Et 10 ans après, plus de 10 ans après, nous sommes toujours là et sur les 200 cantates que nous avons retrouvées de Bach, on en a fait plus de 80, donc voilà. Vive la folie, en un mot.
Alors, quand vous regardez le chemin parcouru 10 ans après, quels sont les sentiments qui vous habitent ?
Ah bah écoutez, je vais être franc, je ne dis pas souvent ça, mais je suis fier. Parce que, effectivement...
On sera moins.
Oui, mais c'est quelque chose, si vous voulez. Bon, voilà, j'espère faire mon métier de musicien avec modestie, hein, surtout qu'on est à l'ombre de quelqu'un quand même de très impressionnant, avec Jean-Sébastien Bach. Donc, j'ai appris une chose en fréquentant cet homme assidûment, dans les dernières années, sa musique, mais l'homme à travers sa musique, très clairement, il demande aux artistes de renoncer à un ego trop boursouflé. Et donc, ça peut paraître en même temps curieux de dire ça et de dire ce que je viens de dire, à savoir je suis fier. Alors, je ne vais pas faire le pan, je ne suis pas fier pour moi. Je suis fier pour cette belle aventure, pour toutes les personnes qui l'ont portée, et je pense aussi aux nombreux musiciens de l'ensemble baroque de Toulouse qui ont accepté de s'engager dans cette aventure de manière immédiate, sans émettre une seconde de doute sur sa validité. Voilà, on se lance et on verra bien. Et donc, il y a effectivement une forme de fierté dès la première année. Le public a répondu, il faut bien le reconnaître. Il y a eu plus de 8000 entrées la première année. Nous sommes à un petit peu plus de 20 000 sur l'année précédente. Et donc, dès la première année, on peut dire que ce festival a reçu un accueil remarquable de la part du public.
A
trouvé
son
public, absolument.
Vous avez pensé que la formule était bonne.
Oui, alors maintenant, effectivement, j'entends beaucoup de personnes me dire la formule est bonne. Et c'est très bien. Alors, je n'en prends absolument aucun ombrage. Mais un certain nombre de festivals se nourrirent en partie de cette formule. Mais tant mieux. D'ailleurs, je dois dire pareil, en toute modestie, que le principe qui prévaut, c'est-à-dire de ces concerts courts dans des lieux différents de Toulouse, etc., eh bien, il y en a d'autres qui l'ont inventé avant nous. Le Marathon des mots le pratique pour la littérature, par exemple. Ils ont commencé avant nous. Donc, je veux dire, c'est une sorte de chaîne, hein, ces choses-là. Je n'ai absolument pas eu le sentiment de piquer l'idée au Marathon des mots, parce que quand j'ai pensé à ce festival, je n'ai absolument pas pensé au Marathon des mots, que je pense je ne connaissais pas, je ne l'avais pas encore fréquenté à l'époque. Mais c'est juste qu'il peut y avoir à un moment donné une sorte de passage, comme ça, de passerelle entre différentes idées, différentes personnes, et peut-être que 5 ans avant, ça n'aurait pas marché. Peut-être que si nous le créions maintenant, ça ne marcherait pas. Mais il y a eu une sorte d'alchimie à ce moment-là.
La bonne formule au bon moment. Je voudrais l'avis des chroniqueurs de cette émission qui suivent le festival depuis ses débuts, depuis 10 ans. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette formule Hubert ?
Moi, j'adore. Je trouve que Bach partout, pas de lieu interdit, c'est ce qu'il faut. Hein, parce que c'est une musique en plus protéiforme. Enfin, il a tout écrit, quoi. De tout, d'un instrument à des chœurs avec soliste et orchestre complet. Donc, quand on pense à la passion sur Saint-Mathieu qu'on a entendu l'an dernier, et par exemple les variations Goldberg au clavecin seul, voilà, Bach, c'est tout ça. Et je trouve que ces petits concerts, la seule difficulté, c'est d'organiser ces journées pour l'amateur de Bach. On peut pas aller, et ça apprend peut-être la vie aussi. On peut pas aller partout, on peut pas tout entendre, on peut pas tout voir. Il faut faire des choix.
Et
dans une époque où on n'est plus capable de faire des choix, c'est excellent. Juste une question, quand il y a plusieurs concerts avec le même titre, s'agit-il du même concert deux fois pour répondre à la demande de certains qui avaient raté ?
Voilà, tout à fait. C'est toujours le même programme exactement deux fois. Par exemple, le programme de concerto que donnera l'ensemble baroque avec les deux merveilleux violonistes solistes qui étaient à la Passion l'an dernier avec nous sera exactement
donc
le même programme.
Vous avez un peu écouté ce qu'on vous demandait parce qu'il y en a qui regrettaient de pas.
Mais ceci dit, dès la première année, c'était comme ça. Hein. Dès la première, à partir du moment où il y a plusieurs concerts qui démarrent en même temps, à partir du moment où il y a quand même des lieux, c'est dans une certaine circonférence relativement réduite de Toulouse, mais il y a des lieux qui sont quand même un peu éloignés. Voilà, c'est une manière d'éviter les plaintes de fin de festival en disant, ah écoutez, vous aviez deux chances, vous aviez deux possibilités, tant pis pour vous.
Il ne faut pas faire plus.
Non, mais c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Et puis c'est très convivial, les gens sont heureux, on se reconnaît, on sait. Ah tiens, vous êtes là aussi, vous avez fait... C'est très beau parce que ça fait de la convivialité et du choix. Dans une époque où on ne sait plus assumer ses choix, là, on doit
se
faire plaisir, là où ou là. On peut pas.
C'est l'occasion pour beaucoup de gens, des Toulousains même, de découvrir sans doute des lieux.
Et David,
qui n'ont jamais mis les pieds à Toulouse. Hein.
Un élément aussi qu'il faut dire, c'est le prix des places étant quand même plus que très raisonnable. On peut inviter facilement un ami. On dit, j'ai pris une place, tu viens. Et ça se fait comme ça beaucoup. J'entends beaucoup de gens. Ah ben, je suis content que tu m'aies fait venir, je ne serais jamais venu. Et donc, du coup, s'ouvrent des goûts qui ne se connaissaient pas. Hein. C'est très beau, ça.
Absolument, oui, oui. Alors, je voudrais insister sur le fait du développement de la convivialité entre les spectateurs.
Oui, oui.
Et entre les spectateurs et les musiciens. Ah. Alors, ce qui est formidable, c'est que, il faut porter de bonnes chaussures, hein, pour aller.
Ah oui, il faut pas avoir peur de marcher.
Mais il faut marcher.
Et de battre le pavé.
En même temps, on visite la ville.
C'est
les lieux les plus inattendus, les plus.
On fait des rencontres.
On fait les rencontres, exactement. Et comme disait Hubert, mais c'est tout à fait juste. On se retrouve d'un concert à l'autre et puis on peut dire, ah, est-ce que vous avez vu ça? Ah non, ah, allez-y.
On en vient, c'est formidable.
Je rebondis, Serge, sur la convivialité dont tu parlais, dans le public, mais entre le public et les musiciens. Alors, j'ai une anecdote véridique, évidemment, très rigolote à ce sujet. Une année où nous avions, comme revient cette année, quand on parlera de la programmation, on pourra en parler, mais une initiation à la danse baroque, donc qui est faite par un des musiciens de l'ensemble, qui est maître à danser,
puisqu'il faut
savoir que toute la musique baroque, y compris la musique d'église de Jean-Sébastien Bach, est complètement influencée par la danse son temps. Et donc, il avait fait cet atelier de danse, et comme j'avais un petit creux dans le week-end, j'étais allé à une initiation de danse. Et donc, à la fin du festival, qui à l'époque se terminait par la cantate sans filet à Saint-Étienne, que nous ne pouvons plus faire maintenant, mais je garais mon vélo devant Saint-Étienne, et il y a un monsieur qui m'aborde très gentiment et un petit peu timidement, et qui me dit « Je peux vous dire un petit mot ?» Alors je lui dis « Bah, bien entendu, écoutez, voilà, je voudrais vous dire, vous dirigez beaucoup mieux que vous ne dansez. » Ben, je vous assure que j'ai jamais éprouver un tel sentiment de fraternité, le mot est peut-être un peu fort, je sais pas, de proximité avec le public. On partage quelque chose qu'on essaye de rendre très exigeant sur le plan artistique, mais on essaye de le partager en toute simplicité avec des rapports humains très forts, voilà, hein, qu'on essaye de tisser comme ça.
Oui. Anne-Marie.
Oui, ben, tout a été dit, je crois. C'est ce côté d'approche de la musique tout à fait inhabituel, cette convivialité, cette recherche de concerts. Parfois, comme ça, on va dans un endroit, on va dans un autre. On ne va pas forcément écouter un programme particulier. On va écouter Bach. Et puis, la grande figure de Bach est là. Et je crois que c'est tout à fait nouveau et que c'est la raison du succès.
La figure tutélaire de Jean-Sébastien Bach. Alors cette année, vous avez titré cette édition Flashback, parce que pour ce 10e anniversaire, vous avez voulu reprogrammer des artistes, des concerts, des spectacles qui ont marqué l'histoire du festival depuis ses débuts. Mais sur quels critères vous avez fait vos choix? Parce que,
alors, c'est
en 10 ans, il en est passé. Hein.
C'est une excellente question, ça n'a pas été facile. Je ne voulais pas que ce soit un choix que personnel. D'abord, il y a une première raison qui est que moi, au moment du festival, à partir du moment où je suis très sollicité par les concerts, je n'ai pas du tout eu l'occasion de tout voir. Il est évident que je connais tous les artistes que je programme. C'est-à-dire que je les rencontre lorsqu'on peut se rencontrer, et surtout je connais leur travail, soit pour l'avoir vu en concert, un travail qui n'est pas sur Bach. Hein. Évidemment que ça peut être un travail, je pense en particulier en musique actuelle, ça peut être un travail dans leur domaine strict, sans parler de Bach, soit par des extraits qu'ils me font parvenir. Voilà, et j'éprouve cette séduction. Bien. Mais j'ai très peu l'occasion de voir de concerts pendant le week-end. Donc, je me suis appuyé sur une équipe, l'équipe du bureau de l'ensemble baroque, le bureau en question, qui lui est très actif pendant le festival. Et nous avons fait une sorte de vote, hein, avec ce qui ressortait le plus. Peut-être, je peux le dire, sa modestie va en souffrir, mais je crois que ce qui avait fait le plus l'unanimité, et nous avons eu la chance de pouvoir la réinviter, c'est Ophélie Gaillard, qui fera le concert d'ouverture cette année. Elle avait proposé, elle est venue plusieurs fois, Ophélie. Elle adore le festival aussi, je crois qu'elle y trouve quelque chose de particulier. Elle est venue avec le spectacle qui est réinvité là, mais également elle est venue jouer un concerto avec l'ensemble baroque de Toulouse, un concerto de Carl-Philippe Emmanuel, magnifique. Et voilà, son spectacle était avec un danseur de hip-hop qui s'appelle Ibrahim Sissoko. Et ils avaient fait quelque chose qui avait, mais bouleversé le public de Saint-Pierre-des-Cuisines. Et donc c'est peut-être le premier nom qui est sorti avec unanimité, disons, voilà, il faut réinviter Ophélie. Alors après, dans tous ces noms qui sont sortis, il fallait que les artistes soient libres.
Oui, ça c'était la question qui venait derrière.
Et ça n'a pas été le cas pour tous. Et d'autre part, il fallait qu'ils acceptent aussi ce contrat qui était « revenez dans le même festival, mais pour pas qu'il y ait un parfum de nostalgie trop pesant, proposez autre chose. Ouais. » Voilà. Et Ophélie Gaillard et Ibrahim Sissoko qui reviennent proposent quelque chose. Leur première venue était le début d'une collaboration sur ce travail. Et là, c'est l'aboutissement de cette collaboration qu'ils vont proposer quelques années plus tard.
Ils étaient venus en 2013, donc il y a 5 ans. Donc ils reviennent avec un spectacle qu'ils ont intitulé « En filigrane ». Pour ceux qui l'ont vu en 2013, ce sera pas tout à fait la même chose.
Ce sera pas tout à fait la même chose et il y aura une
même
première,
esprit, mais bon.
Voilà, une première partie strictement musicale où Ophélie Gaillard réserve quelques surprises. Elle fera voisiner Bach avec voilà d'autres compositeurs qu'il n'aurait pas désavoué et la deuxième partie donc qui sera effectivement inspirée de cette première venue mais avec
elle
une évolution.
Elle la rejoindra sur scène.
Voilà,
et là, bon, il se passera ce qui se passera.
Absolument.
Donc ça sera le vendredi 1er juin, spectacle d'ouverture, concert d'ouverture, je sais pas s'il faut dire concert, spectacle, à 20h30. À Saint-Pierre-des-Cuisines. Alors prenez bien vos places, je ne sais pas s'il en reste.
Alors pour ce concert-là, je crois que c'est bien plein, donc il faut se dépêcher.
Il faut foncer,
voilà,
là, hein,
parce que Saint-Pierre-des-Cuisines, c'est une jauge relativement modeste de 400 et quelques places, donc voilà.
Alors on va écouter Ophélie Gaillard dans une suite de Bach. Bon, vous connaissez tous le prélude de la suite numéro 1. Je pense qu'il est au programme de ce spectacle.
Je ne le sais pas.
Alors bon, admettons qu'il y soit, on écoute Ophélie Gaillard tout de suite. Ophélie Gaillard qui interprétait le prélude de la fameuse suite pour violoncelle numéro 1 de Jean-Sébastien Bach. Et vous pouvez la retrouver avec le danseur Ibrahim Sissoko vendredi 1er juin à Saint-Pierre-des-Cuisines à 20h30 pour le concert d'ouverture de Passe-t-on Bach d'abord, édition 2018. Alors, autre reprise, la caravane baroque. Ça, ce sera le lendemain. Alors, c'est une première à plus d'un titre, parce que je crois que c'est une première au TNT pour Passe-t-on Bach.
Tout à fait, oui, absolument. C'est la première, effectivement, collaboration avec le TNT. Alors, je dois dire, hein, je vais faire court, mais nous avons été accueillis à bras ouverts au TNT. Et ça, je dois dire que c'est vraiment quelque chose de remarquable, parce que c'est une salle extraordinaire. Et on aurait pu être considéré comme étant un petit peu marginaux par rapport à leur programmation théâtrale. Et pas du tout. Là, nous avons été accueillis avec vraiment une chaleur humaine extraordinaire.
La caravane baroque, pourquoi vous avez voulu reprendre ce spectacle qui est vraiment une pure création de l'ensemble baroque de Toulouse? Je crois que c'était au Dissud la première fois.
Tout à fait, c'était au Dissud, absolument.
Succès public d'entrée. Alors, est-ce que ça a joué, ça?
Alors,
Ou c'est parce que c'est l'originalité du concept?
C'est-à-dire, voilà, je pense que c'est tout ça. D'abord, parce que Bach y est représenté, bien sûr. Hein, c'est pas tout à fait le compositeur qui commence le spectacle, puisque auparavant, il y a un compositeur qui a été un des maîtres, non pas pédagogiques, puisqu'on le sait, Bach était en grande partie autodidacte, mais enfin, un des compositeurs qui a inspiré Bach, puisqu'il y a Buxtehude, mais, enfin, Buxtehude, Bach dans l'ordre. Donc, Bach y est, et il y est représenté d'une manière vraiment, comment dirais-je, brillante. Mais je pense que ce qui justifie la présence de Caravane Baroque, c'est aussi le fait que, voilà, c'est la première fois, enfin, c'est la deuxième. Nous avions créé un spectacle qui s'appelle Cantate Singulière, que d'ailleurs nous reprenons ces jours-ci également, mais c'est la première fois, de manière aussi nette, où les musiciens eux-mêmes de l'ensemble baroque de Toulouse représentent l'esprit du festival Passe-t-on Bach d'abord, c'est-à-dire qu'ils laissent parfois leur instrument classique pour en prendre un non classique, ou bien avec leur instrument classique, ils jouent une musique qui n'est plus du tout une musique classique ou baroque. L'objectif de ce spectacle, Caravane patrimoine baroque, c'est montrer que cette musique baroque est une musique qui a des racines populaires et que la musique populaire après la musique baroque existe toujours. Donc nous sommes partis d'avant, nous sommes passés par la musique baroque et ses immenses compositeurs que sont Bach, Purcell, Monteverdi qui figurent dans ce programme et Vivaldi, et nous nous dirigeons après vers d'autres rivages de musique populaire avec entrain et avec bonne humeur. Voilà, et donc je pense que vraiment Caravane Baroque a toute sa place dans cette programmation. Je pense que c'est un moment vraiment de jubilation musicale assez
extraordinaire. Oui, parce que ce que j'allais dire, c'est qu'on voit aussi sur scène que les musiciens, les chanteurs s'amusent. Et évidemment, c'est communicatif.
Oui, tout à fait. C'est effectivement ce que nous avons essayé de rendre en créant ce spectacle.
Alors ça, Caravane Baroque, ça sera 22h. Hein.
C'est pour terminer le samedi soir. Voilà, il ne faut pas avoir peur de l'horaire
journée
un peu tardif. Parce que je crois que quand on vit un festival, qu'on le vit à plein, on n'a pas envie que ça s'arrête. Hein. Et c'est un spectacle plutôt assez court, d'environ une heure. Donc voilà, il ne faut pas craindre de se coucher trop tard pour ne pas être en forme le lendemain matin, dimanche, dès 11h.
Non, mais c'est festif et vous pourrez même prolonger encore après la Caravane Baroque autour du TNT, dans les bars et restaurants du coin. Alors, le concert qui clôturera Passe ton bac 2018 aura lieu cette fois-ci au couvent des Jacobins. Alors je crois que c'est une première pour le concert de clôture.
Tout à fait.
Et vous allez reprendre la messe brève. Voilà. De Jean-Sébastien Bach.
C'est la messe brève en sol mineur.
Voilà, parce qu'il y en a plusieurs.
Voilà, il y en a quatre.
C'est ce que je voulais dire.
Il a écrit quatre messes brèves, effectivement.
Voilà, alors là aussi, pourquoi vous avez choisi celle-ci? Parce qu'il y a d'autres concerts que vous avez donnés avec des œuvres de Bach qui ont marqué l'histoire du festival.
Tout à fait.
La messe brève.
Alors, dans le cadre d'un flashback, effectivement, donc vous l'avez dit, on réinvite des artistes qui sont déjà venus. Pourquoi ne pas réinviter des œuvres? Et cette œuvre-là en particulier, parce que c'est un véritable coup de cœur que j'ai éprouvé, je pense que ça reflète très bien ce qu'était Jean-Sébastien Bach. C'est une musique à la fois extrêmement savante, puisque plusieurs des mouvements comportent des passages fugués, c'est-à-dire cette écriture très typique de Bach, complexe où les voix se superposent. Et en même temps, c'est une musique d'une immédiateté, d'une expressivité, je dirais même presque d'une sensualité immédiatement perceptible. Et alors moi, c'est une œuvre amie. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On a tous ça, peut-être.
On peut se
dire,
voilà,
ça n'est pas peut-être ce qui est considéré par les musicologues comme le plus grand chef-d'œuvre du compositeur. Bon, la messe brève en sol mineur était vraiment un chef-d'œuvre, mais peut-être pas le plus grand chef-d'œuvre. Mais on entretient avec elle une certaine forme d'intimité. Il se trouve que j'ai découvert très tardivement cette œuvre. Je ne connaissais pas l'existence de cette messe brève. Et un jour, merci France Musique, j'allume France Musique pour faire ma vaisselle ou je ne sais pas. Voilà, au moment de faire ma vaisselle. Et là, j'entends cette œuvre. Je découvre cette œuvre que je ne connaissais pas. Et j'ai été saisi par sa beauté, vraiment. Je disais, cette sensualité, je trouve, c'est le mot qui me vient à l'esprit, des lignes musicales, des sonorités. Et je regarde, je me renseigne. C'était cette œuvre que je ne connaissais pas. On peut encore, en tant que musicien, découvrir des chefs-d'œuvre qui vont touche droit au cœur, alors qu'on pratique la musique de Bach tous les jours. C'est aussi pour ça que j'ai souhaité reprogrammer cette œuvre-là.
C'est peut-être aussi le fait de l'avoir découverte tardivement qui fait que vous y êtes très attaché maintenant.
C'est tout à fait possible.
Ça existait, voilà. Je ne le savais pas.
Tout à fait. Et alors donc, je dois dire que comme donc, on la réinvite, puisqu'elle est déjà venue, je pense que ce choc que j'ai éprouvé, ce choc émotionnel que j'ai éprouvé, nous l'avons fait partager à beaucoup de public, parce que lorsque nous l'avons donné, je me rappelle en particulier d'un concert difficile, parce que dans une acoustique difficile, c'était au grand amphi d'Espax de la fac de sciences sociales, c'est pas une acoustique flatteuse, hein. C'est pas fait pour ça, c'est fait pour la parole, pour les discours, pour la parole amplifiée. Et là, il y a eu, je crois, on a senti, nous, une espèce d'enthousiasme du public pour cette musique, qui est pourtant assez discrète, hein, qui est plutôt de l'ordre de l'intime, de la profondeur. Il n'y a pas de trompette, c'est pas de la musique brillante, quoi, disons. Et on a senti cette communion qui s'établissait avec le public sur la profondeur de cette œuvre. Donc je crois qu'elle était tout à fait légitime à revenir cette année.
Pour ceux qui, comme vous, à une certaine époque, ne connaîtraient pas la messe brève en sol mineur de Jean-Sébastien Bach, je propose qu'on en écoute un extrait. En fait, c'est le début, une version dirigée par Tom Kopman. Thank you. le chœur et l'orchestre baroque d'Amsterdam dirigé par Ton Koopman pour cette version de la messe brève en sol mineur de Jean-Sébastien Bach. Alors, on ne pourra pas parler de tout, évidemment, il y a 100 événements en tout, dans 30 lieux différents de Toulouse. Est-ce qu'il y a, parmi ceux dont nous n'avons pas parlé jusqu'alors, certains que vous avez envie de mettre en avant?
Alors c'est très difficile, c'est tous les ans très difficile, mais particulièrement cette année, puisque vu que c'est un flashback et qu'on a choisi les artistes qui nous avaient le plus marqué, voilà, c'est très difficile. Alors je vais peut-être mettre en avant, justement, parce qu'il n'y a pas que des artistes réinvités, je vais peut-être mettre en avant des artistes qui viennent pour la première fois, et peut-être en musique actuelle. Et il y a un groupe de jeunes musiciens toulousains qui s'appelle Host, qui sont assez typiques, je pense, de cette démarche, comment on pourrait le qualifier, désacralisation de Bach, mais j'y reviendrai peut-être après. Lui, il ne demandait que ça, à être désacralisé, hein, donc je crois qu'il aurait été très content. Alors, ils font une musique, comment la qualifier? Eux-mêmes n'y arrivent pas. Ils disent, je crois que ça s'appelle du jazz post-rock.
Oui, c'est
voilà,
ce que j'ai
un
vu.
Truc comme ça, voilà. Je ne sais pas ce que c'est, personnellement.
Débrouillez-vous avec ça.
Voilà, débrouillez-vous avec ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ils sont vraiment au carrefour de mes préoccupations. C'est-à-dire que c'est des musiciens qui ont une solide formation classique. Cette formation classique, ils l'ont digérée et ils la pratiquent moins depuis un moment. C'est un groupe, un jeune groupe de rock, ils sont tout jeunes, ils ont 20 ans et quelques, enfin voilà, de Toulouse, qui font quelque chose d'une très grande qualité dans leur domaine. Et je leur ai confié la lourde charge d'adapter Bach à leur univers musical en leur disant, voilà, mais c'est très simple, soyez respectueux de Bach et soyez en même temps très irrespectueux de Bach. Il était lui-même d'une ouverture d'esprit absolument incroyable, parce qu'on parlait tout à l'heure de la conception de ce festival grâce à l'idée, à l'aide d'un tel et d'un tel, à l'audace de cette administratrice de l'époque, Juliette, qui a porté ce projet à bout de bras. Mais c'est Bach qui nous a montré l'exemple. Qu'est-ce qu'il faisait ce monsieur le dimanche après-midi? Il descendait le clavecin de chez lui, avec ses frères, les amis de passage, cette espèce de smala qu'il y avait constamment chez les Bach. Il descendait le clavecin, il allait s'installer au café, le café de Zimmermann,
le fameux
à l'époque, et il faisait de la musique l'après-midi avec ses amis au café. Eh ben, nous n'avons rien inventé en 2008, lorsque nous avons créé ce festival. Voilà, c'est lui qui nous a donné toutes ces idées. Au fond, sa musique, elle porte toutes ces idées déjà en elle-même.
Et puis, il y aura toujours cet objet insolite, incroyable, Escalabac, je serve.
Ça, c'est très important. Non, mais c'est complètement fou, là. Vraiment, la première fois qu'on regarde et écoute ce qui sort de cette espèce d'escalier avec des marches de 4 mètres de hauteur, je ne sais plus combien de longueur.
Il fait 15 mètres de long.
15 mètres de longueur, c'est hallucinant. Il fallait penser à ça. Donc, bravo pour cette invention.
Pour ceux qui ne connaissent pas d'Escalabac, c'est effectivement un escalier en bois. Et puis, on fait tomber une
bille,
une balle, je ne sais pas comment dire, une espèce de balle de golf, qui, en tapant sur les différentes marches, elle joue « Jésus, que ma joie demeure ».
En particulier.
Oui.
C'était incroyable.
Alors, cette année, il y a un mini Escalabac.
Oui,
voilà, là,
c'est ça. C'est ça, nous avons fait un petit frère. Donc, le grand Escalabac est en majesté. Il est à l'heure actuelle déjà installé depuis une quinzaine
dans
de jours.
Dans le réfectoire des Jacobins.
Pas dans le réfectoire, dans l'église.
Ah, carrément dans l'église.
Sous, oui, le palmier, oui. Sous le palmier.
Sous le palmier.
Il est au plus bel endroit des Jacobins.
Oui.
Et je dois dire qu'il y a un double spectacle. Il y a le spectacle de voir l'Escalabac et de l'entendre, mais il y a aussi le spectacle de la réaction des personnes qui sont là. Alors, il y a un petit moment pour comprendre comment ça se passe, où est-ce qu'il faut mettre cette boule. Alors, il y a un petit ascenseur, je vous donne le secret. Hein. Il y a un petit ascenseur qui permet de monter la petite balle sur les 4,50 m de hauteur de l'Escalabac et qui l'éjecte en arrivant en haut et la boule descend et effectivement joue Jésus. Alors, nous lui avons donné cette année un petit frère qui avait déjà participé d'ailleurs lui aussi, c'est un flashback à une édition précédente, et lui, il a la particularité d'être interactif. Nous vous proposons de devenir Bach pendant quelques minutes. Donc voilà comment ça se passe, il y a quelques réservoirs, 5 ou 6 réservoirs de notes, de lames, avec une grille de lecture pour les poser sur le petit Escalabac. Ça tombe bien, il est plus petit et donc on peut y accéder sans ascenseur et sans monter sur un escabeau. On pose les lames en respectant bien la grille et là, au miracle, il jouera le morceau de Bach que vous venez de composé. Voilà.
Encore une curiosité à découvrir lors de ce festival Passe-ton Bach 2018. Et là, c'est la fin de cette émission. Un grand merci à vous quatre d'y avoir participé. Un remerciement particulier à Michel Brun d'avoir pris le temps de venir nous voir pour nous parler de la programmation de Passe-ton Bach d'abord, qui fête donc ses 10 ans du vendredi 1er au dimanche 3 juin. Une centaine de concerts, de spectacles dans 30 lieux de la ville de Toulouse lors de cette 11e édition. Pour connaître le détail du programme et réserver vos places, je vous invite à vous connecter au site web de l'ensemble baroque de Toulouse, www.baroquetoulouse.com, à la rubrique Passe-ton Bach. Si vous voulez vous renseigner et réserver aussi pour le prochain concert concert de l'Orchestre National du Capitole ce samedi 26 mai à 20h à la Halle au Grain. Concert pour lequel devait jouer Fazilsay, et malheureusement Fazilsay est forfait. Il a une tendinite au bras, il va être remplacé par le pianiste Guillaume Vincent qui jouera le concerto numéro 2 de Camille Saint-Saëns. Il y a aussi au programme les variations concertantes de Ginastera et la symphonie numéro 7 de Beethoven. Pour ça donc vous pouvez vous connecter au site www.onct.toulouse.fr. Je signale aussi dans l'actualité de la semaine prochaine un ciné-concert vendredi 1er juin 20h30 à l'espace Palumbo de Saint-Jean. Il est intitulé Un amour de Max et proposé par l'association Gabriel Forêt dans le cadre de la saison qu'elle organise à Saint-Jean. C'est une suite de courts-métrages de Max Linder illustrés d'improvisation à l'accordéon et au violoncelle. On réserve sur le site www.gabrielforêt.fr. Macbeth au Théâtre du Capitole, deux représentations encore, dimanche 27 mai à 15h et mardi 29 à 20h. Renseignements sur le site du théâtre www.théâtreducapitole.fr. Merci à Christophe Aubry d'avoir assuré la régie technique de cette émission qui est disponible et réécoutable en podcast dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci encore de votre fidélité. Je vous souhaite à tous une excellente semaine musicale.